26 septembre. Est-ce vrai? N'est-ce pas une illusion de mon esprit dévoyé? Mais pourquoi l'heure d'hier me paraît-elle si lointaine, si réelle? Il m'a parlé une seconde fois, longuement, à mon côté, pendant que je cheminais sous les arbres, prise de vertige. Sous quels arbres? C'était comme si j'eusse cheminé dans les chemins secrets de mon âme, parmi les fleurs nées de mon âme, en écoutant les paroles d'un esprit invisible qui se serait autrefois nourri de mon âme. J'entends encore les paroles délicieuses et terribles. Il disait « Je renoncerai à toutes les promesses de la vie pour vivre dans un petit coin de votre cœur. » Il disait « Hors du monde, entièrement perdu dans votre être, pour toujours, jusqu'à la mort. » Il disait « La pitié qui me viendrait de vous me serait plus chère que la passion de toute autre femme. Votre seule présence suffisait pour me donner l'ivresse. Je la sentais couler comme du sang dans mes veines, envahir mon esprit comme un sentiment surhumain. » 27 septembre. À la lisière du bois, quand il a cueilli cette fleur et me l'a offerte, ne l'ai-je pas appelée « vie de ma vie » ? Quand nous avons repassé par l'allée des fontaines, devant cette fontaine où il m'avait parlé d'abord, ne l'ai-je pas appelé « vie de ma vie » ? Quand il a enlevé la couronne de l'Hermès et l'a rendue à ma fille, ne m'a-t-il pas fait entendre que la femme exaltée dans ses vers était déjà déchue et que moi, moi seule, j'étais son espérance ? Et alors, ne l'ai-je pas appelé « vie de ma vie » ? 28 septembre. Comme le recueillement a été long à venir. Depuis cette heure-là, que d'heures j'ai employées à lutter et à peiner pour entrer dans ma vraie conscience, pour voir les choses sous leur vrai jour, pour juger l'événement avec un jugement ferme et calme, pour démêler, pour décider, pour reconnaître mon devoir. Je m'échappais à moi-même. Mon esprit se perdait, ma volonté se dérobait, tous mes efforts étaient vains. Par une sorte d'instinct, j'évitais de rester seul avec lui. Je me tenais toujours près de Françoise et de ma fille, où je restais dans cette chambre, comme dans un refuge. Lorsque mes yeux rencontraient les siens, il me semblait lire dans les siens une profonde et suppliante tristesse. Ne sait-il pas combien, combien, combien je l'aime ? Il ne le sait pas, il ne le saura jamais. Telle est ma volonté, tel est mon devoir. Courage. Mon Dieu, venez-moi en aide. 29 septembre. Pourquoi a-t-il parlé? Pourquoi a-t-il voulu rompre le silencieux enchantement où mon âme se berçait, presque sans remords, presque sans peur? Pourquoi a-t-il voulu déchirer les voiles flottants de l'incertitude et me mettre en face de son amour dévoilé? Désormais, je ne puis plus temporiser. Je ne puis plus ni me faire illusion, ni me permettre une faiblesse, ni m'abandonner à une langueur. Le péril est là, certain, découvert, manifeste, et il m'attire, me donne le vertige comme un abîme. Une seconde de langueur, de faiblesse, et je suis perdu. Je me demande, est-ce une douleur sincère, est-ce un regret sincère que me cause cette révélation inattendue ? D'où vient que je pense toujours à ces paroles? D'où vient que, si je me les répète à moi-même, un flot ineffable de volupté me traverse l'âme? Pourquoi un frisson me courtille dans les moelles quand j'imagine que je pourrais entendre d'autres paroles encore? Un vers de Shakespeare dans « As you like it ».
Who ever loved that loved not at first sight?
Nuit. Les mouvements de mon âme prennent une forme d'interrogation, je m'interroge sans cesse et je ne réponds jamais. Je n'ai pas eu le courage de me regarder jusqu'au fond, de reconnaître exactement mon état, de prendre une résolution vraiment forte et loyale. Je suis pusillanime, je suis lâche, j'ai peur de la douleur, je veux souffrir le moins possible. Je veux ondoyer encore, temporiser, déguiser, chercher mon salut dans les subterfuges, me cacher, au lieu d'affronter à visage découvert la bataille décisive. Voici le fait. Je crains de rester seul avec lui, d'avoir avec lui un entretien grave. et ma vie à Skiffanoy n'est plus qu'une suite de petites ruses, de petits détours, de petits prétextes pour éviter sa compagnie. Il faut que je choisisse, ou bien je renoncerai absolument à cet amour et il entendra ma parole triste mais ferme, ou bien je l'accepterai en ce qu'il a de pur et il recevra mon consentement spirituel. À cette heure, je me demande, qu'est-ce que je veux ? De ces deux routes, laquelle choisir ? Le renoncement ? Le consentement ? Mon Dieu, répondez pour moi, illuminez-moi ! Renoncer, c'est maintenant qu'on m'a arraché avec mes ongles une partie vive de mon cœur. Mon angoisse sera immense, mon supplice dépassera les limites de toute torture. Mais avec la grâce de Dieu, cet héroïsme sera couronné par la résignation, sera récompensé par la divine douceur qui suit chaque énergique essor, chaque relèvement moral, chaque triomphe de l'âme sur la peur de souffrir. Je renoncerai. Ma fille gardera la possession de tout, tout mon être, de toute, toute ma vie. Là est le devoir. Labour avec des larmes, âme douloureuse, pour moissonner avec des chants d'allégresse. 30 septembre. En écrivant ces pages, je me sens un peu plus calme. Je reconquiers, momentanément du moins, un peu d'équilibre. J'envisage avec plus de lucidité mon infortune et il me semble que mon cœur s'allège comme après une confession. Oh, si je pouvais me confesser, si je pouvais demander conseil et aide à mon vieil ami, à mon vieux consolateur. Dans toutes mes tribulations, ce qui me soutient plus que tout le reste, c'est la pensée que je reverrai bientôt Don Louis, que je lui parlerai, que je lui montrerai toutes mes blessures, que je lui découvrirai toutes mes terreurs, que je lui demanderai un baume pour tous mes maux, comme autrefois, comme au temps où sa parole clémente et profonde appelait des larmes de tendresse dans mes yeux, qui ne connaissaient pas encore l'amertume d'autres larmes, ni la brûlure bien plus terrible de la sécheresse. Me comprendra-t-il encore ? Comprendra-t-il les obscures angoisses de la femme aussi bien qu'il comprenait les mélancolies vagues et fugitives de la jeune fille ? Reverrai-je se pencher vers moi dans l'attitude de la miséricorde et de la compassion, ce beau front couronné de cheveux blancs, illuminé de sainteté, pur comme l'hostie dans le ciboire, béni par la main du Seigneur. Dans la chapelle, après la messe, j'ai joué sur l'orgue de la musique de Bach et de Cherubini. J'ai joué le même prélude que l'autre soir. Une âme pleurait et gémissait, oppressée par l'angoisse. Une âme pleurait, gémissait, appelait Dieu, demandait son pardon, implorait un secours, poussait une prière qui montait vers le ciel comme une flamme. Elle appelait et elle était écoutée. Elle priait et elle était exaucée. Elle recevait la lumière d'en haut, jetait des cris d'allégresse, saisissait enfin la paix et la vérité, se reposait dans la clémence du Seigneur. L'orgue n'est pas grand, la chapelle n'est pas grande. Et néanmoins, mon âme s'est dilatée comme dans une basilique, s'est élevée comme dans une immense coupole, a touché le sommet idéal où resplendit le signe des signes, dans l'azur paradisiaque, dans le sublime éther. Nuit. Hélas, hélas, rien ne me calme, rien ne me donne une heure, une minute, une seconde d'oubli. Rien ne pourra me guérir. Nul rêve de mon intelligence n'effacera le rêve de mon cœur. Hélas ! Mon angoisse est mortelle, je sens que ma blessure est incurable. Mon cœur me fait mal, comme si on me le serrait, me le comprimait, me le déchirait pour toujours. Ma douleur morale est si forte qu'elle se change en une douleur physique, en une torture atroce, intolérable. Je sais bien que je suis exalté, que je suis en proie à une sorte de folie. Mais je ne peux pas me vaincre, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas reprendre ma raison. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est donc cela, l'amour ? Il est parti ce matin à cheval, accompagné d'un domestique, sans que je l'aie vu. J'ai passé toute ma matinée dans la chapelle. À l'heure du déjeuner, il n'était pas encore revenu. Son absence me faisait souffrir à tel point que j'étais stupéfaite de l'acuité de ma souffrance. Je suis rentrée dans ma chambre. Pour adoucir ma peine, j'ai écrit une page de mon journal, une page religieuse, en me réchauffant au souvenir de ma foi de jeune fille. Ensuite, j'ai lu quelques passages de l'Épis Psychidion de Shelley. Ensuite, je suis descendue dans le parc pour chercher Delphine. En faisant tout cela, je pensais à lui. Et cette pensée maîtresse me dominait, me tyrannisait, me tourmentait sans trêve. Quand j'ai de nouveau entendu sa voix, je me trouvais sur la première terrasse. Il parlait avec Françoise dans le vestibule. Françoise s'était avancée sur le seuil pour m'appeler d'en haut. « Viens donc !» En remontant l'escalier, je sentais mes genoux fléchir. Il m'a salué, m'a tendu la main. Et peut-être a-t-il remarqué le tremblement de la mienne, car j'ai vu quelque chose qui passait dans ses yeux, rapidement. Nous nous sommes assis sur les chaises longues de paille, dans le vestibule, en face de la mer. Il a dit qu'il était très fatigué, et il s'est mis à fumer en racontant sa promenade. Il était allé jusqu'à Vic-aux-Milles, où il avait fait une halte. « Vic-aux-Milles, a-t-il dit, possède trois merveilles, un bois de pin, une tour et un encensoir du XVe siècle. Figurez-vous, entre la mer et la colline, un bois de pin tout plein d'étangs qui multiplie les arbres à l'infini, et un campanile de vieux style lombard qui remonte certainement au XIe siècle, un tronc de pierre chargé de sirènes, de paons, de serpents, de chimères, d'hippogriffes, de mille monstres et de mille fleurs, et un encensoir d'argent doré, émaillé, gravé et ciselé, de forme gothico-byzantine, avec un pressentiment de la Renaissance, une œuvre de Gallucci, cet artiste presque ignoré, qui est un grand précurseur de Benvenuto. » En parlant, il s'adressait à moi. C'est étrange comme je me rappelle avec exactitude toutes ses paroles. Je pourrais transcrire sa conversation d'un bout à l'autre avec les menues particularités les plus insignifiantes. S'il y avait un moyen, je pourrais reproduire chaque modulation de sa voix. Il nous a montré deux ou trois petits dessins au crayon sur son carnet. Puis il s'est remis à parler des merveilles de Vic-aux-Milles avec cette chaleur qu'il a lorsqu'il parle de choses belles, avec cet enthousiasme pour l'art qui est une de ses plus puissantes séductions. J'ai promis au chanoine de revenir demain. Nous irons, n'est-ce pas, Françoise? Il faut que Donna Marie connaisse Vic-aux-Milles. Oh, mon nom sur sa bouche! S'il y avait un moyen, je pourrais reproduire le mouvement exact, l'ouverture de ses lèvres lorsqu'il a proféré chaque syllabe des deux mots « Donna Marie ». Mais ce que je ne pourrai jamais exprimer, c'est ma propre émotion. Ce que je ne pourrai jamais redire, c'est le foisonnement de choses inconnues, inopinées, insoupçonnées, que réveille en mon être la présence de cet homme. Nous sommes restés assis jusqu'à l'heure du dîner. Françoise, contre son habitude, avait l'air un peu mélancolique. À un certain moment, le silence est tombé sur nous, très lourd. Mais, entre lui et moi, s'est engagé un de ces colloques de silence où l'âme exhale l'indicible et entend le murmure des pensées. Il me disait des choses qui me faisaient languir de douceur sur le coussin, des choses que jamais plus sa bouche ne pourra me répéter, que jamais plus ne pourront ouïr mes oreilles. Devant nous, les cyprès immobiles, légers à la vue, comme sublimés dans un bain d'éther, incendiés par le soleil, semblaient porter une flamme à leur sommet, ainsi que des cierges votifs. La mer avait la couleur verte d'une feuille d'aloès et, par endroits, la couleur bleu clair d'une turquoise liquéfiée. C'était une indescriptible délicatesse de pâleur, une diffusion de lumière angélique, où chaque voile offrait l'image d'un ange qui aurait nagé. Et l'harmonie des parfums alanguis par l'automne était l'âme de ce jour déclinant. Oh, la mort sereine de septembre! Encore un mois fini, perdu, tombé dans l'abîme. Adieu! Une tristesse immense m'accable. Elle est si grande, la partie de moi-même qu'emporte avec soi cette partie du temps. J'ai vécu plus en 15 jours qu'en 15 années, et il me semble que jamais une de mes longues semaines de douleur n'a égalé en torture poignante cette courte semaine de passion. Le cœur me fait mal, ma tête s'égare. je sens au fond de moi une chose obscure et brûlante, une chose qui s'est révélée soudain comme une infection morbide et qui commence à me corrompre le sang et l'âme, malgré toute volonté, malgré tout remède, le désir. J'en ai honte et horreur comme d'une ignominie, comme d'un sacrilège, comme d'une profanation. J'en ai une frayeur folle et désespérée, comme d'un ennemi perfide qui, pour pénétrer dans la citadelle, connaîtrait des voies inconnues de moi-même. Et voici que je veille dans la nuit, et en écrivant cette page, avec la fièvre qu'ont les amants lorsqu'ils écrivent leurs lettres d'amour, je n'entends point la respiration de ma fille qui dort. Elle dort en paix, elle ne sait pas combien l'âme de sa mère est loin d'elle. 1er octobre. Mes yeux voient en lui ce qu'ils ne voyaient pas auparavant. Lorsqu'il parle, je regarde sa bouche, et le jeu, la couleur de ses lèvres, m'occupe plus que le son et le sens de ses paroles. 2 octobre. C'est aujourd'hui samedi. C'est aujourd'hui le 8e jour depuis le jour inoubliable, 25 septembre 1886. Par un hasard singulier, quoique je n'évite plus de me trouver seul avec lui, quoique je désire même la venue du moment redoutable et héroïque, ce moment, par un hasard singulier, n'est pas venu encore. Aujourd'hui, Françoise ne m'a pas quitté un instant. Nous avons fait le matin une promenade à cheval sur la route de Rovigliano, et nous avons passé au piano presque tout l'après-midi. Elle a voulu que je lui joue des danses du XVIe siècle, puis la sonate en fa dièse mineur et la célèbre toccata de Muzio Clementi, puis 2 ou 3 caprices de Dominique Scarlatti, et elle a voulu que je lui chante certains morceaux des Frauenlieder de Schumann. Quel contraste ! Françoise n'est plus gaie comme autrefois, comme elle l'était encore aux jours qui ont suivi mon arrivée. Souvent, elle devient pensive, et quand elle rit, quand elle plaisante, sa gaieté me paraît artificielle. Je lui ai demandé « As-tu quelques préoccupations qui te tourmentent ?» Elle m'a répondu, en affectant la surprise, « Pourquoi ?» J'ai ajouté, « Je te vois un peu triste. » Et elle, « Triste ? Oh non, tu te trompes !» Puis elle s'est mise à rire, mais d'un rire involontairement amer. Cela m'afflige et me donne une inquiétude vague. Nous irons à Bicomille et demain dans l'après-midi. Il m'a demandé, « Auriez-vous la force de venir à cheval ?» À cheval, nous pourrions traverser tout le bois de pins. » Puis il m'a dit encore, « Relisez dans les odes de Shelley à Jane la recollection. » Nous irons donc à cheval, et c'est à cheval aussi que viendra Françoise. Les autres, y compris Delphine, viendront en mail-coach. Dans quelle étrange disposition d'esprit je me trouve ce soir. J'ai comme une colère sourde et âpre au fond du cœur, sans savoir pourquoi. J'ai comme une impatience de moi-même, de ma vie, de tout. Mon irritation nerveuse est si forte que, de temps à autre, je suis prise d'une folle envie de crier, de m'enfoncer les ongles dans la chair, de me briser les doigts contre la muraille, de provoquer une souffrance matérielle quelconque pour me soustraire à cet insupportable malaise intérieur, à cette insupportable détresse. Il me semble que j'ai le haut de la poitrine serré par un nœud de feu, la gorge étranglée par un sanglot qui ne veut pas sortir, la tête vide, tour à tour glacée et brûlante. Et, de temps à autre, je sens passer en moi une sorte d'angoisse subite, une terreur irréfléchie, que je ne parviens ni à repousser, ni à dominer. Et, quelquefois, à travers mon cerveau, jaillissent des images et des pensées involontaires qui montent de je ne sais quelle profondeur de mon être, des images et des pensées indignes. Et je languis, je défaille comme une femme plongée dans un amour enlaçant. Et néanmoins, non, non, ce n'est pas une volupté. 3 octobre. Comme notre âme est faible et misérable, comme elle est sans défense contre les réveils et les assauts de tous les instincts les moins nobles et les moins purs, assoupis dans l'obscurité de notre vie inconsciente, dans l'abîme inexploré, où les rêves aveugles naissent des aveugles sensations. Un rêve peut empoisonner une âme. Une seule pensée involontaire peut corrompre une volonté. Nous partons pour Vicomille. Delphine est dans la joie. C'est un jour religieux, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Courage, mon cœur. 4 octobre. Aucun courage. Ma journée d'hier a été si pleine de petits incidents et de grandes émotions, si joyeuse et si triste, si étrangement agitée, que je me perds quand j'essaie de m'en souvenir. Et déjà, devant un seul souvenir, tous les autres pâlissent et se dissipent. Tous. Après avoir visité la tour et admiré l'ostensoir, nous nous préparâmes à repartir de Vicomille vers 5h30. Françoise était fatiguée, et plutôt que de remonter à cheval, elle préféra revenir avec le mail coach. Nous suivîmes le mail un bout de chemin, tantôt derrière et tantôt à côté. Du haut de la voiture, Delphine et Muriel agitaient vers nous de longs roseaux fleuris et riaient en nous menaçant avec leurs beaux panaches violâtres. C'était une soirée très tranquille, sans brise. Le soleil allait descendre derrière la colline de Rovigliano, dans un ciel aussi rosé qu'un ciel de l'Extrême-Orient. Il pleuvait partout des roses, des roses, des roses, si lentes, si épaisses, si molles, qu'on aurait dit une tombée de neige dans une aurore. Lorsque le soleil disparut, les roses plus abondantes se répandirent jusqu'à l'horizon opposé, se dispersant, s'effeuillant dans un azur très clair, argentin, indéfinissable, pareil à celui qui s'arrondit sur les sommets des montagnes couvertes de glace. Il me disait de temps à autre « Regardez la tour de Vicomille, regardez la coupole de Saint-Gonsalve. » Quand les pins furent en vue, il me demanda « Traversons-nous ?» La grande route côtoyait le bois en décrivant une large courbe et en se rapprochant de la mer, de sorte qu'au sommet de l'arc, elle atteignait presque le rivage. Déjà, le bois était sombre, d'un vert ténébreux, comme si l'ombre se fût amassée sur les cimes des arbres, sans obscurcir encore la limpidité de l'air supérieur. Mais, sous bois, les étangs resplendissaient d'une lumière intense et profonde, comme des lambeaux d'un ciel beaucoup plus pur que le ciel déployé sur nos têtes. Sans attendre ma réponse, il dit à Françoise « Nous allons traverser le bois. Nous vous retrouverons sur la route, de l'autre côté, au pont de l'évêque. » Et il retint son cheval. Pourquoi ai-je consenti? Pourquoi l'ai-je suivi? J'avais dans les yeux une sorte d'éblouissement. Il me semblait que j'étais sous l'influence d'une fascination confuse. Il me semblait que ce paysage, cette lumière, cet incident, tout ce concours de circonstances était pour moi, non pas des choses nouvelles, mais des choses qui, déjà, me seraient arrivées jadis dans une autre existence et qui, maintenant, m'arriveraient pour la seconde fois. Cette impression ne peut se traduire. Il me semblait donc que cette heure, que ces instants déjà vécus, n'étaient point indépendants de moi, mais qu'ils appartenaient à mon être et qu'ils avaient avec ma personne un lien si naturel et si indissoluble que je n'aurais pas pu m'empêcher de les revivre précisément de cette façon et que c'était pour moi une nécessité de les revivre ainsi. Cette nécessité, j'en avais la sensation très claire. L'inertie de mon vouloir était absolue. C'était comme lorsqu'un fait de la vie reparaît en songe avec des détails qui s'ajoutent à la vérité et qui diffèrent de la vérité. Je ne réussis pas à décrire même une faible partie de ce phénomène étrange. Entre mon âme et le paysage, il y avait une secrète correspondance, une affinité mystérieuse. Il semblait que l'image du bois dans l'eau des étangs fut vraiment l'image rêvée de la scène réelle. Comme dans le poème de Shelley, chaque étang paraissait un ciel étroit qui se serait enfoncé dans un monde souterrain, un firmament de lumière rosée étendu sur la terre obscure, plus profond que la nuit profonde, plus pur que le jour, et où les arbres se seraient développés de la même façon que dans l'air supérieur, mais avec des formes et des teintes plus parfaites que tous ceux qui ondoyaient en cet endroit. Et des vues délicieuses, comme on n'en vit jamais à la surface de notre monde, y étaient peintes par l'amour de l'eau pour la belle forêt. Et dans toute leur profondeur, elles étaient pénétrées d'une clarté élyséenne, d'une atmosphère sans variation, d'un crépuscule plus doux que le nôtre. De quel lointain des âges nous revenait cette heure-là ? Nous allions au pas silencieusement. Les cris rares des pies, l'allure et le souffle des chevaux ne troublaient point la paix environnante qui, de minute en minute, semblait devenir plus large et plus magique. Pourquoi voulut-il rompre cette magie dont nous étions les créateurs ? Il parla. Il versa sur mon âme un flot de paroles ardentes, folles, presque insensées, qui, dans le silence de ces arbres, me faisaient peur, parce qu'elles y prenaient quelque chose de surhumain, quelque chose d'indéfinissablement étrange, quelque chose d'indéfinissablement étrange et fascinant. Il ne fut pas humble et soumis comme dans le parc, il ne me dit pas ses espérances timides et découragées, ses aspirations presque mystiques, ses incurables tristesses. Il ne supplia pas, il n'implora pas. Il avait la voix de la passion, audacieuse et forte, une voix que je ne lui connaissais point. « Vous m'aimez, vous m'aimez, vous ne pouvez pas ne pas m'aimer. Dites-moi que vous m'aimez. » Son cheval marchait tout près du mien, et je le sentais m'effleurer, et je croyais aussi sentir sur ma joue son haleine, l'ardeur de ses paroles, et je craignais de défaillir d'angoisse et de tomber dans ses bras. « Dites-moi que vous m'aimez, » répétait-il obstinément, impitoyablement. « Dites-moi que vous m'aimez. » Dans l'exaspération terrible que me donnait sa voix pressante, je crois que je lui dis, fût-ce dans un cri ou dans un sanglot, éperdu, « Je vous aime, je vous aime, je vous aime !» Et je lançai mon cheval à bride abattue dans le chemin à peine frayé parmi le fourré des pins sans savoir ce que je faisais. Il me suivait en criant « Marie, Marie, arrêtez-vous, vous vous ferez du mal !» Je ne m'arrêtai pas. Je ne sais comment mon cheval évita les troncs, je ne sais comment je ne tombai point. Je suis incapable de redire l'impression que me donnait pendant cette course la forêt sombre entrecoupée par les larges flaques luisantes des étangs. Lorsqu'enfin je débouchai sur la route, du côté opposé, près du pont, il me sembla que je sortais d'une hallucination. Il me dit avec une sorte de violence « Vous vouliez donc vous tuer ?» Nous entendîmes le bruit de la voiture qui s'approchait et nous allâmes au devant d'elle. Il voulait me parler encore. « Taisez-vous, je vous en supplie, par pitié » implorai-je, car je sentais mes forces défaillir. Il se tut, puis avec une assurance qui me stupéfia, il dit à Françoise « Quel malheur que tu ne sois pas venue, c'était un enchantement !» Et il continua de parler, sans embarras, d'une façon naturelle, comme s'il n'était rien survenu, même avec une certaine gaieté. Et je lui étais reconnaissante de cette dissimulation qui me sauvait sans doute, car si j'avais dû parler moi-même, je me serais certainement trahie. Et si nous avions gardé le silence tous les deux, cela aurait probablement éveillé les soupçons de Françoise. Un peu plus loin commença la montée vers Skiffanoy. Oh, l'immense mélancolie du soir! Le premier quartier de la lune brillait dans un ciel tendre, un peu vert, où mes yeux seulement peut-être, distinguaient encore une légère nuance de rose, de ce rose qui éclairait les étangs, là-bas, dans la forêt. 5 octobre. Il sait maintenant que je l'aime. Il le sait de ma bouche. Je n'ai plus d'autre ressource que la fuite. Voilà où j'en suis arrivé. Lorsqu'il me regarde, il a au fond des yeux une lueur singulière qu'il n'avait pas d'abord. Aujourd'hui, pendant une courte absence de Françoise, il m'a pris la main en faisant le geste de la baiser. J'ai réussi à la retirer et j'ai surpris sur ses lèvres émues un petit tremblement comme l'image du baiser non donné. Et ce geste m'est resté dans la mémoire, et il m'obsède, il m'obsède.